du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani, il est 18h à Bamako, le journal avec Seydou Famba, bonsoir. Une semaine après l'attaque d'un camp militaire à Gao qui a fait 77 morts et 120 blessés, l'enquête progresse. Une vaste opération de sécurisation dénommée Filidjo est en cours dans la ville et aux alentours. Les premiers résultats sont encourageants. La population de la ville de Gao est satisfaite de l'opération. Selon certaines notabilités locales, la coordination des patrouilles des différentes forces va certainement rétablir la stabilité à l'intérieur de la ville et ses environs. Le maire de la commune de Mondoro a été tué hier soir par des hommes armés à la sortie de la mosquée. Cet assassinat est le deuxième en deux semaines contre un élu local dans le sud de Douanzan. Les collectifs des familles, des associations des victimes de la crise de 2012 du sud de Douanzan réclament justice. Selon les responsables du collectif, les familles regrettent que plusieurs mois après la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, rien n'a été fait pour rendre justice à leurs proches. Auditrice, auditeur, bienvenue. Plus d'une semaine après l'attaque d'un camp à Gao qui a fait 77 morts et 120 blessés, l'enquête progresse. Une vaste opération de sécurisation dénommée Filidjo est en cours dans la ville et aux alentours. Les premiers résultats sont encourageants. L'explication avec Ibrahim Achtialo.
Le ministre de la Sécurité Salif Traoré a annoncé ce vendredi l'arrestation de trois personnes dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du camp du Mok à Gao, mais sans donner plus de précisions. Cependant, d'autres sources indiquent que ces arrestations seraient le fruit de l'opération Filidjo, coup de filet lancé à Gao par les forces de sécurité maliennes en coordination avec les forces françaises Barkhane et la mission des Nations Unies. Des sources sécuritaires maliennes et françaises impliquées dans cette opération font état d'une dizaine d'arrestations. Il s'agirait de personnes liées à l'attentat du camp militaire de Gao le 18 janvier dernier, et revendiqué par le groupe terroriste Al-Mirabitoun. Les premiers éléments de l'interrogatoire confirment que ces personnes auraient joué un rôle d'accueil et de planification. Outre ces opérations ponctuelles, des patrouilles sont menées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, notamment au point d'entrée et de sortie de Gao, mais également en périphérie. Les fouilles de maisons et de bureaux sont effectuées dans la ville de Gao, souvent menées de nuit. Elles ont permis de découvrir des armes, notamment des mitrailleuses à monter sur des véhicules, ainsi que du matériel informatique, des carnets et des téléphones qui sont en cours d'exploitation. Ces perquisitions ont pu avoir lieu grâce à des informations confiées par des habitants de la ville. À Kidal, un peu plus au nord, les forces françaises de l'opération Barkhane ont aussi perquisitionné hier le domicile de Yad Agali, chef du groupe djihadiste en Sardine. Selon des sources locales, des soldats français ont procédé à une fouille minutieuse de la maison du chef djihadiste pendant que d'autres étaient positionnés sur le toit de la maison et aux alentours. Les militaires français ont saisi des téléphones portables et des bijoux de la veuve du défunt chef Touareg Ibrahim Agbahanga, laquelle se trouvait avec ses filles au domicile perquisitionné. Il s'agit de la première perquisition des forces françaises du domicile de Yad Agali depuis le déclenchement de l'intervention militaire en janvier 2013.
La population de la ville de Gao est satisfaite de l'opération Filidjo. Selon certaines notabilités traditionnelles, la coordination des patrouilles des forces armées maliennes, des Nations Unies et des Barkhane va certainement rétablir la stabilité à l'intérieur de la ville et ses environs. Moussa Amamaïga, chef Songoé, est joué au téléphone par Samba Doumbia.
La situation sécuritaire de l'opération Filidjo est là-dessus. Ils sont sur le travail en train de sécuriser l'intérieur de Gao et les alentours. Donc ils sont vraiment sur le travail et ils sont en train de le faire d'une manière différente de toutes les autres manières qui s'étaient passées auparavant. Moi je pense que les conditions se réunissent parce qu'il y a quand même trois forces en présence qui sont ensemble en train de mener conjointement cette opération. Les FAMA, l'AMILUSMA et puis Barkhane. Ces opérations, nous attendons qu'elles aboutissent. Le premier niveau, c'est qu'elles préservent les acquis que nous avons déjà. Le second niveau, c'est qu'ils tirent les leçons de ce qui s'est passé. La troisième leçon, c'est que c'est l'union qui fait la force. Donc nous pensons qu'un tel travail, c'est l'objectif qui compte. Nous croyons qu'ils feront le travail jusqu'au bout. Et les populations aussi doivent leur faciliter la tâche pour que l'objectif essentiel qui est celui de la paix, de la réconciliation, aussi du processus d'adhésion soit atteint.
Ces opérations de sécurisation visent à renforcer les efforts du Mali dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Cependant, certains spécialistes estiment que ce genre d'opérations de sécurisation se concilie difficilement avec le respect des libertés fondamentales. Ali Tungara, enseignant à l'Université de Bamako, joint au téléphone par Ibrahim Achdialo.
Ces opérations sont à saluer. Elles vont nettement contribuer à redonner à l'État toute sa légitimité parce que nous assistons quand même depuis 2012 à l'émergence d'un État beaucoup plus défaillant. Donc c'est un grand pas à saluer, mais il serait encore mieux qu'elle soit l'œuvre exclusive de nos forces de sécurité et de défense.
Est-ce que ces opérations de sécurisation pourraient-elles avoir un impact positif justement sur le démarrage des patrouilles dans ces régions du Nord?
Ces opérations vont influencer le cours des actions conjointes à mener dans les mois et des années à venir. Mais ce qui est important dans cette lutte contre l'extrémisme violent, l'État est souvent quand même aussi buté à mon entendement des exigences. J'appelle la première exigence l'exigence sécuritaire et la deuxième exigence les libertés fondamentales. Et la première exigence sécuritaire, l'État a ses problèmes également. En voulant qu'il veuille lutter efficacement contre l'extrémisme violent, les libertés fondamentales souvent sont piétinées.
Vous pouvez réagir sur ces informations en les consultant sur la page Facebook de Studio Tamani ou sur son compte Twitter. Le maire de la commune de Mondoro, Suleiman Ongouiba, a été tué hier par des hommes armés à sa sortie de la mosquée. Cet assassinat est le deuxième en deux semaines contre un élu local dans le secteur de Douanzan. En début de semaine dernière, c'est le maire de Boni, Amadou Ndiko, qui a été tué dans les mêmes circonstances. Le collectif des familles des associations des victimes de la crise de 2012 du CER de Douanzan s'impatiente et réclame justice. Selon les responsables du collectif, les familles regrettent que plusieurs mois après la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, rien n'a été fait pour rendre justice à leurs proches. Ibrahim Maïga, président du collectif des associations du CER de Douanzan, joint par Mariam Kamba Keita.
Nous réclamons d'abord à ce que les victimes, que la justice soit là d'abord. Bien vrai que la CVGR a été mise en place, mais la CVGR a été mise en place et elle n'était pas arrivée jusqu'aux victimes dans la mesure où, avec l'insécurité, les agents qui sont chargés de prendre les dispositions créent pour leur propre sécurité, ça c'est un. Et secondo, les associations sont là pour les aider. Les associations qui sont là, nous sommes à Douanza. Douanza a été occupée depuis 2012 jusqu'à l'arrivée de Serval. Donc les victimes qui sont là ne savent même pas à quel lieu se vouer. Ils ne les approchent pas pour leur dire, bon, voilà, venez faire la déposition. Ils n'ont aucune radio aujourd'hui ou aucun moyen de communication qui leur permet de comprendre voici ce que nous faisons. Les associations, nous, en tant que membres des associations, responsables des associations, nous avons demandé les moyens tout simplement pour qu'on puisse vraiment les aider à comprendre quelle voie il faut suivre pour vraiment déposer et demander à ce que justice soit rendue. Nous, on fait ce que nous faisons, nous les approchons, nous nous réunissons, donc, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de cause.
La cérémonie de lancement de la campagne de défense des droits de l'homme en milieu scolaire, c'est tenue hier à Bamako. L'objectif visé est de sensibiliser les élèves et étudiants sur le respect et la protection des droits humains et sur le retour de la paix. Dr Ablaye Sall, président de l'association CRI du Milieu, est au micro de Mariam Kamakeita.
Donc vous n'êtes pas sans savoir que la constitution du Mali, si vous prenez le titre premier, est essentiellement fondée sur la sécurité humaine parce qu'on parle du droit et devoir de la personne humaine. Donc il s'agit maintenant de monter des messages, conceptualiser ces messages et de pouvoir les traduire en sorte que ces messages puissent être véhiculés à la fois par les canaux pédagogiques et par les canaux andragogiques. Les canaux pédagogiques, c'est l'éducation des enfants. Vous voyez, c'est des lycéens qui sont pris, mais qui n'ont peut-être pas l'âge de voter. Et les canaux andragogiques, c'est l'éducation des adultes qui doivent voter, qui doivent désigner ceux qui doivent prendre les décisions les plus importantes, qui doivent siéger dans les institutions de la République. Les activités qu'on va monter vont porter sur ces deux canaux. Et quand vous parlez du droit de l'homme, c'est d'abord l'accès à l'information. Le deuxième aspect important, c'est le droit au savoir. On dit que quelqu'un qui est pauvre est sans savoir, sans avoir et sans pouvoir. Le savoir, ça s'apprend. Comment avoir les connaissances, c'est ce que j'appelle l'onction morale, l'onction éthique pour que ça devienne un savoir et servir son pays.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Nouvelle des régions du pays, la 13e édition du festival sur le Niger se tiendra du 1er au 5 février 2017 à Ségou. Environ 30 000 festivaliers sont attendus dans la ville. Le thème retenu cette année est jeunesse africaine et les défis du numérique. Selon le directeur du festival, des concerts géants seront organisés avec la participation des artistes nationaux et internationaux ainsi que des colloques sur la paix. Un autre festival, un festival transfrontalier sur le développement socio-économique et culturel du bassin du fleuve Sénégal a été lancé hier à Kay. Cette fête de 3 jours vise à renforcer la dynamique du développement local et la coopération transfrontalière dans le bassin du fleuve Sénégal. Des délégations venues du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie participent à cet événement. Un atelier de formation et d'échange sur l'élaboration d'une politique de défense et de sécurité s'est tenu hier à Tombouctou. Une quarantaine de représentants des partis politiques ont pris part à cette rencontre de trois jours organisée par la section ADEMA-PACJ de Tombouctou en collaboration avec la fondation Frédéric Hébert Strindfond. Le programme d'appui à la décentralisation de l'éducation a mis en place des espaces de lecture dans 5 écoles de la commune de Yorosso. Des cours de lecture, d'écriture et de calcul seront dispensés aux élèves de 3e année pendant les week-ends. C'est la fin de ce journal, un journal mis en onde par Péting Diarra et présenté par Seydou Fomba. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute dans un instant les magazines.